Les cours du Collège de France, Sébastien Lecommandou, chaire Innovation Technologique, Liliane Bettencourt.
Madame la Présidente de la Fondation Bettencourt-Schuller, chère Françoise Bettencourt-Meyers, Monsieur le Directeur Général de la Fondation Bettencourt-Schuller, cher Olivier, Monsieur le Président Directeur Général du CNRS, cher Antoine, Mesdames, Messieurs, vos titres et fonctions, chers collègues, cher Sébastien Lecommandou. C'est un très grand plaisir. D'abord, je voudrais vous souhaiter la bonne année, on peut encore le faire, espérant qu'elle sera vraiment bonne, mais je ne vais pas maintenant parler de ça. C'est un très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici dans l'amphithéâtre Marguerite Navarre du Collège de France et aussi derrière vos écrans pour l'inauguration de la 18e édition de la chaire annuelle Innovation technologique Liliane Bettencourt. Cette chaire, créée en 2006, marque la volonté commune du Collège de France et de la Fondation Bettencourt-Schuller de mettre en valeur l'importance des travaux consacrés à l'innovation technologique. L'innovation se caractérise d'une part par sa dimension interdisciplinaire et d'autre part par la capacité de certains chercheurs et chercheuses à développer des applications utiles à la société ainsi qu'à créer un dialogue entre le monde académique et le monde industriel. Dans le cadre de cette chaire est invité chaque année un chercheur, une chercheuse de renommée internationale, dont le travail pionnier a pris en compte de façon exemplaire l'interdisciplinarité et la capacité de travailler au rapprochement de la recherche publique et des applications technologiques. La Fondation Bettencourt-Schuller poursuit à travers cette chaire son objectif de soutien à une recherche scientifique d'excellence dans des domaines aux confins de la recherche fondamentale et de l'innovation. Le Collège de France tient à honorer la mémoire de Madame Liliane Bettencourt, dont la chaire porte le nom, et qui, à travers la Fondation Bettencourt-Schuller, mécène du Collège de France, a largement œuvré à la création et à la longévité de cette chaire. Nous en sommes très reconnaissants. Cette année, l'enseignement de cette chaire a pour sujet les biomatériaux de demain, polymères, biomimétiques et biohybrides. La notion de polymère, au vu du public, est souvent associée au plastique, à des matériaux polluants qui se seraient substitués dans nos usages à des substances plus naturelles. Il s'agit pourtant d'un concept chimique plus large. Un polymère est une large structure moléculaire composée de sous-unités capables d'interagir entre elles et pouvant avoir une grande diversité de propriétés. Ces macromolécules peuvent donner des clés pour résoudre nombre de questions de nos sociétés dans le domaine des matériaux, de l'énergie, de la médecine, la pharmacie, mais aussi les cosmétiques. D'ailleurs, depuis l'Antiquité, avec des matériaux comme le caoutchouc ou la soie, les scientifiques se sont déjà efforcés de comprendre et d'imiter les processus naturels pour développer des matériaux plus performants. Je vous donne un scoop, j'ai trouvé des polymères dans la Bible aussi. On trouve dans la Bible pour la fabrication de la couverture de la tenture du sanctuaire mobile un terme, tahash, qui est très difficile à traduire et que la tradition rabbinique a compris comme peau de dauphin, ce qui est peu probable. Mais ce terme dessine peut-être plus un biopolymère, une sorte de cuir difficilement identifiable pour nous. Peut-être l'origine se trouve dans la Bible, mais ça c'est une autre question. Alors aujourd'hui, l'innovation au niveau des polymères va bien au-delà des limitations. Des assemblages polymères dynamiques tels que ceux dotés d'autonomie motrice, ainsi que la création de cellules artificielles repoussent les frontières de la science. Ces développements ouvrent les nouvelles voies pour la compréhension des process biologiques et le développement des thérapies d'avant-garde. Nous sommes très heureux d'accueillir cette année au Collège de France le grand spécialiste de ces questions, Sébastien Lecommandou. Sébastien Lecommandou, professeur à l'Université de Bordeaux et surtout directeur du laboratoire de chimie des polymères organiques du CNRS, d'où la présence d'Antoine. Il dirige l'équipe auto-assemblage polymères et sciences du vivant, dont les recherches portent sur la conception des polymères biohybrides et bio-inspirés pour les biomatériaux et le développement pharmaceutique, notamment sur la base de l'auto-assemblage des copolymères à bloc à base de polypeptides, de protéines et de polysaccharides. Sébastien Lecommandou porte une attention particulière à la compréhension des mécanismes qui gouvernent les propriétés d'auto-assemblage et d'influence de la structure ou du code moléculaire permettant de contrôler la forme, la taille et la fonction de ces systèmes en s'inspirant du vivant. Ces recherches lui ont permis d'obtenir le prix Sequence de l'Académie des sciences, de devenir fellow de la Royal Society of Chemistry et membre de l'Academia Europea. Son intérêt pour la recherche translationnelle l'a conduit à construire et diriger le laboratoire commun LCPO L'Oréal et la création de start-up, dont récemment, en 2023, Doxarano. Dans son portrait, que j'ai lu et que vous pouvez lire sur le site web du Collège de France, il explique pourquoi il a décidé d'étudier la chimie. Poussé par son amour de jeunesse pour la pâtisserie, hérité d'une famille de boulangers. J'ai beaucoup aimé ça. Et je le cite, je vois dans la chimie l'acte de créer et façonner la matière. Ça aussi, c'est très biblique. On assemble les atomes et molécules avec l'idée de produire un objet doté de propriétés particulières. Voilà, ça c'est vraiment l'homo faber. Cher Sébastien Lecommandou, nous sommes très heureux de votre présence, impatients de vous entendre, et je vous laisse la parole.
Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs du Collège de France, mesdames et messieurs Bédancourt-Meyers et leurs enfants, monsieur le président du CNRS, monsieur le directeur général de Bordeaux INP, chers collègues, mesdames, messieurs. Permettez-moi tout d'abord, monsieur l'administrateur et chers collègues du Collège de France, de vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée et pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé au sein de cette prestigieuse institution. Intégrer le Collège de France dans le cadre de la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt m'honore au plus haut niveau, et surtout quand je vois la liste des illustres collègues qui m'ont précédé. Je tiens à remercier tout particulièrement Clément Sanchez et Jean-Marie Tarascon qui m'ont proposé pour cette chaire. Un énorme merci pour votre confiance. Je suis particulièrement sensible à la maxime du Collège de France, qui depuis sa création en 1530 promeut et enseigne la recherche en train de se faire dans les sciences, les lettres et les arts. Et ce, avec la volonté de diffuser le savoir à tous. Et donc j'éprouve une grande fierté de pouvoir contribuer à cette démarche très noble. Cette chaire, donc soutenue par la Fondation Bettencourt-Schoeller, qui promeut la recherche et l'innovation, revêt pour moi une signification toute particulière à bien des égards. Et tout d'abord parce que j'ai depuis plusieurs années le plaisir de collaborer avec le Centre de recherche et d'innovation de L'Oréal, et j'ai eu l'honneur de mettre en place, avec mes collègues du LCPO, et grâce à l'enthousiasme aussi de mes collègues de L'Oréal, en particulier Xavier Schulz et Maria Dalco à l'époque, le premier laboratoire commun entre L'Oréal et un laboratoire académique universitaire. Et puis cette chaire qui met en avant l'innovation m'honore particulièrement car, quelque part, elle me surprend. Elle me surprend parce que je n'ai jamais vraiment effectué ou réfléchi, développé mes recherches en pensant absolument à transformer des découvertes que nous avons pu faire au sein du laboratoire en un développement technologique, mais sans non plus être fermé à cette idée. Alors, comment vous partager mon expérience et comment aussi inspirer les plus jeunes et les convaincre, autant que je le suis, que notre métier est le plus beau du monde. Et je pense que c'est un enjeu très actuel car les carrières scientifiques, malheureusement, ne font plus rêver. Alors, je ne vais pas vous parler du lien entre recherche fondamentale et innovation, comme l'a brillamment fait un de mes prédécesseurs, Didier Roux, et de l'importance de la convergence entre découverte, invention et innovation. Mais j'aimerais juste rappeler, et même si cela, quelque part, est assez évident, que tout chercheur doit rester ouvert, libre intellectuellement, et avec une soif d'apprendre et de comprendre permanente. Aussi bien que ce lien entre recherche et innovation est indissociable, de même, le lien entre recherche et enseignement l'est tout autant. Et donc, la leçon inaugurale dans un lieu et une assemblée aussi prestigieuse que celle-ci et devant, une assemblée de collègues, que j'estime au plus haut niveau, c'est un rite qui est très particulier dans la communauté universitaire. Et donc, devoir présenter devant cette assemblée que j'admire et être titulaire de cette chaire, j'avoue, aujourd'hui, ça me donne un peu de trac, et vous devez peut-être un peu le sentir. Donc j'espère passer ce trac pour prendre un peu de plaisir dans les prochaines minutes. Donc comment vous parler de cette thématique ? La thématique que j'ai décidé d'aborder et qui est représentée ici, effectivement autour des biomatériaux de demain et des biomatériaux à base de polymères, biomimétiques et biohybrides. Donc je me suis posé de nombreuses fois la question, par quel bout commencer ? comment aborder cette thématique. Et puis j'ai fait, refait cette présentation un certain nombre de fois. J'aurais pu le faire par un angle historique, comme beaucoup le font, mais finalement, j'ai d'abord décidé de vous parler de la problématique actuelle que la discipline que je représente, à savoir la science des polymères, la problématique face à laquelle elle est aujourd'hui. Et ceci de façon un petit peu provocatrice. Et quelque part, ceux qui me connaissent bien n'en seront pas forcément étonnés. Donc si aujourd'hui je demande à cette assemblée ce qu'est un polymère, eh bien beaucoup ne sauront pas me répondre, et d'autres me diront, eh bien ce sont des plastiques. Et si la question suivante, eh bien est-ce que ces plastiques, c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite, qui est une marque de progrès? Eh bien beaucoup diront certainement non. Et en fait, la perception sociétale que l'on a des plastiques aujourd'hui, elle n'est pas très positive, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, ceci est totalement faux, voire absurde, et ce pour plein de raisons. Et tout simplement, peut-on imaginer un monde sans plastique? Certainement pas. Dans cette pièce, on n'aurait pas grand-chose autour de nous, on ne serait pas assis comme on l'est ici. Sont-ils utiles? Oui, dans de nombreux domaines, tels que l'emballage, la préservation des aliments, le transport, la santé et beaucoup d'autres. Doit-on limiter leur utilisation? Certainement. Et surtout quand cela est possible. Mais est-ce que les polymères sont intrinsèquement toxiques? Eh bien non, pas du tout. Et tout simplement parce que les mêmes polymères, eh bien, vous allez les retrouver dans les applications, dans le bâtiment, dans le transport, mais aussi dans les hôpitaux. Donc en fait, le problème actuel, ce n'est pas la matière qui est à remettre en question, en fait, mais c'est l'usage de l'homme. Et c'est l'usage que l'on en fait. Alors, ce n'est pas de cela dont je veux vous parler ce soir. Et je pourrais vous en parler longuement. Mais ce n'est pas le problème, en fait, c'est pas le sujet, en fait, d'aujourd'hui. Ce dont je veux vous parler ce soir, en fait, ce n'est pas de ces nouveaux polymères qu'on qualifie de plastique. Mais en fait, on peut se poser la question, je vais revenir un peu sur l'histoire tout de même, quand est-ce que sont arrivés les polymères? Quand est née la science des polymères? Eh bien, le constat, c'est d'abord que l'homme utilise les polymères depuis très longtemps. Il l'utilise comme une ressource naturelle, et ce, depuis des millénaires. Tout d'abord, et ça peut être les premières traces, on va dire, d'utilisation de polymères, eh bien, les anciens mésoaméricains fabriquaient déjà du caoutchouc, au moins 1600 ans avant Jésus-Christ. Et ceci en mélangeant de façon très astucieuse du latex d'arbre, le castilla elastica, avec du jus de vigne. Et ils savaient aller au-delà, ils savaient adapter de façon consciente les propriétés, en fait, de ce caoutchouc à leurs besoins, en modifiant le rapport entre le caoutchouc et le jus de vigne. Ils savaient faire des caoutchoucs très durs ou bien très mous. Et leur besoin, c'était de faire des balles, ce jeu de balles connu chez les Incas, mais aussi des semelles de sandales, par exemple, donc de façon très astucieuse. Aussi, l'histoire de la soie a débuté même avant, encore ce temps-là. On relève typiquement les premières traces de soie entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur cet exemple de la soie, qui est une protéine un peu spécifique qui nous inspire aussi et qui nous motive. Donc l'homme a su utiliser les polymères naturels depuis très longtemps, et depuis même très très longtemps, comme une ressource. Mais finalement, quand est née réellement la science des polymères? Parce que l'homme l'utilisait à cette époque, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Donc finalement, cette science des polymères est apparue en 1920. Et le terme polymère, en tout cas, est apparu en 1920 dans cet article ici d'Hermann Schrödinger. Et à cette époque, et quelque part en opposition aux idées reçues du moment, où les chimistes finalement proposaient un modèle plutôt d'agrégation de petites molécules pour former des particules colloïdales, et bien Schrödinger, lui, proposa que le caoutchouc est une sorte de longue chaîne de courtes unités répétées, reliées entre elles par des liaisons covalentes, et chaque mot est important dans cette phrase, et ce, de même, en fait, pour des substances de masse molaire élevée comme l'amidon, la cellulose ou les protéines. Et donc c'est là où réellement la science des polymères a débuté, il y a un peu plus de 100 ans. Donc de suite, et très rapidement, l'industrie s'est emparée de cette compréhension et de ses découvertes. Et après avoir synthétisé le premier caoutchouc synthétique que l'on appelle aujourd'hui le néoprène et les premiers polyesters dans les années 30, l'équipe de Carothers chez Dupont produit en 1935 le premier polyamide synthétique connu sous le nom de nylon. Et le marché des nylons, vous le voyez ici, est toujours croissant et sera, et les prédictions sont toujours en croissance pour ces prochaines années. D'autant plus que certains, comme le ricin ici, qui est produit par Arkema, peut être produit à partir d'huile de ricin, et possède une empreinte carbone qui est réduite et une bonne recyclabilité. Alors pourquoi je vous parle du nylon, et spécifiquement du nylon? Parce qu'en fait, le nylon est un polyamide et fait partie de la famille des polyamides synthétiques, hein, mais qui sont très performants, mais qui toutefois ne sont pas aussi performants que leurs analogues naturels. Et en fait, l'analogue naturel, eh bien, c'est le fil de soie dont on a parlé tout à l'heure. La soie est en effet la fibre la plus résistante au monde, ramenée évidemment à la section identique, hein, puisqu'une toile d'araignée, on peut effectivement la casser facilement. Et ses propriétés sont à peu près deux ordres de grandeur plus importants que celles des nylons. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que la nature fait toujours un peu mieux que ce que nous sommes capables de faire et de reproduire ou de mimer, en tout cas dans l'état actuel, et que la nature est une source inépuisable d'inspiration pour l'homme. Ainsi, dans le cas présent, eh bien, la soie va être produite par l'araignée après un long processus de filage de la protéine, qu'on peut voir ici, qui va produire ce fil de soie, et la structure finale de ce fil eh bien, conduit à des zones qui vont être des zones très organisées, avec beaucoup d'interactions entre les chaînes polymères que vous avez ici, formant ces zones ici fortement cristallines. Mais on a aussi des zones qui sont moins organisées et qui vont permettre la déformation en fait, de ce fil. Donc on a besoin de cette rigidité, mais on a besoin aussi de déformation. Et c'est ce que l'homme mime en créant des polyamides et en créant des nylons, de façon parfois comparable, mais jamais égalée. Et toutefois, jusqu'à ce jour, ces performances effectivement ne sont pas égalées, le fil de soie est toujours le record. Alors pour quelque part conclure, entre guillemets, cette petite introduction sur le monde des polymères, eh bien, je dirais tout d'abord que tous les polymères ne sont pas des plastiques. Aussi que beaucoup de polymères, et beaucoup d'entre eux, eh bien, sont utiles et indispensables à l'homme et à notre vie quotidienne. Aussi, grand nombre de polymères que nous avons créés, eh bien, vous voyez, sont inspirés par la nature, même si on ne le dit pas toujours. Et puis finalement, quelque part, la plupart des polymères dont on a discuté jusqu'à maintenant, eh bien là, sont des polymères qu'on peut qualifier de structures. Et c'est des polymères qu'on utilise principalement pour leurs propriétés mécaniques. Et c'est le cas de la plupart des plastiques. Mais j'aimerais à présent vous parler d'une autre catégorie de polymères, à un peu plus haute valeur ajoutée, que l'on va utiliser pour leurs fonctionnalités spécifiques, et en particulier dans le domaine de la biologie et de la santé. Donc finalement, ce cheminement est aussi un peu celui que j'ai fait dans ma carrière, donc le passage d'étudier des polymères de structure à des polymères qui vont plutôt trouver un impact au niveau biologique. Et j'aimerais quelque part, modestement, vous partager un petit peu cette expérience menée sur mon début de carrière. J'imagine que ma carrière sera encore longue. Et j'aimerais vous montrer à travers cet exemple que le parcours d'un chercheur lambda comme moi, eh bien, vers l'innovation est à la fois non linéaire, parfois chaotique, souvent semé de ramifications, de différentes possibilités, avec des choix à faire, et finalement, vous verrez avec un peu de recul, tellement évident. Et donc, dans mon cas, la question a été eh bien, comment passer des cristaux liquides que j'ai étudiés pendant ma thèse à la nanomédecine, qui sont deux sujets, a priori, tellement différents. Et comment certaines recherches, au départ, élaborées avec une vision très fondamentale, eh bien, finalement, peuvent se transformer en l'innovation de demain. Et nous l'espérons bientôt, une solution technologique qui pourra sauver des vies. Et je tiens également à souligner l'importance des rencontres. Il y a toujours des personnes clés, en fait, dans la vie d'un chercheur, et ces personnes qui ont su nous inspirer, si on a su aussi les écouter. Donc, je voudrais tout d'abord parler de Pierre-Gilles Degène, qui a inspiré eh bien, un grand nombre de physiciens, de physico-chimistes surtout, mais aussi des chimistes comme moi. Il a été prof ici au Collège de France, mais aussi directeur de l'ESPCI. Et c'est une école qui est vraiment orientée vers la chimie industrielle, comme le porte son nom. Alors j'aurais pu vous montrer des équations compliquées en parlant de lui. C'est ce qu'il a beaucoup fait. Mais je préfère vous montrer un passage de ce livre que j'adore, un livre qui est très simple, qui est destiné en fait vraiment au grand public, qui s'appelle « Les objets fragiles ». Ce livre, il l'a écrit en 1994, après avoir fait de nombreuses rencontres et de communications auprès des jeunes, en allant dans les lycées en particulier, pour vraiment promouvoir la science et l'esprit scientifique, après avoir obtenu le prix Nobel en 1991. Et ce qu'il décrit ici, en fait, c'est qu'il a su passer de sujets aussi variés que les supraconducteurs, les cristaux liquides et les polymères et les colloïdes. Alors bien sûr, avec les difficultés de ces transitions, mais ce qui est extrêmement fort de sa part, c'est qu'il a su établir des connexions et des liens entre ces différents sujets, donnant une vision globale des choses. Alors, dans mon cas, j'ai commencé à travailler sur les cristaux liquides. Et les cristaux liquides, plus précisément, dans mon cas, les polymères cristaux liquides. Et j'en profite ici pour remercier la première personne qui m'a fait confiance et me proposer un sujet de thèse, à savoir Francis Ardouin. Il y avait à l'époque beaucoup d'excitation autour de ces matériaux particuliers que sont les cristaux liquides et ces polymères cristaux liquides, dont l'objectif était de combiner les propriétés intrinsèques des cristaux liquides à celles des polymères. Alors, un cristal liquide, comme on peut le voir ici, c'est ce qui servait en fait dans les montres et dans les afficheurs. Et on a ces afficheurs en fait qui sont créés parce que les cristaux liquides, on peut les voir comme des molécules qui sont des petits bâtonnets, donc comme on peut le voir ici, qui vont s'orienter ou pas dans un champ électrique. Et c'est ça qui va donner une lumière qui va passer ou une lumière noire, en gros. Et c'est comme ça qu'on va allumer différents pixels. Ces cristaux liquides, plus tard, ont été utilisés dans les écrans cristaux liquides. Et effectivement, chaque élément ici d'un chiffre représente un pixel avec une haute résolution. Et donc, ce qu'on cherchait à faire à l'époque, c'est combiner ces propriétés à celles des polymères pour pouvoir faire des films et pour pouvoir mettre en forme en fait, ces cristaux liquides de façon plus facile pour faire éventuellement des films et des afficheurs qui vont être flexibles. Mais le problème, en fait, c'était d'accrocher ces petites molécules à de longues chaînes polymères. Et en faisant ça, on s'est rendu compte que la dynamique d'orientation en fait, de ces cristaux liquides était beaucoup trop lente pour l'application visée. Donc finalement, je me suis rendu compte à la fin de ma thèse que cette thématique arrivait un petit peu à bout de souffle, en tout cas dans cette dynamique-là. Et donc, dans la vie d'un chercheur vient le temps du postdoc. Et le temps du postdoc, c'est une nouvelle étape critique. Et là, j'ai eu une chance incroyable de rencontrer Sam Stoop dans le bureau de Pierre-Gilles Degenne, d'ailleurs à l'ESPCI, sur recommandation de Francis Ardouin et de Yves Nianou à l'époque. Il venait de publier cet article dans Science sur l'auto-assemblage de copolymères particuliers de type rod coil, donc avec une partie rigide ici qu'on peut voir comme un cristal liquide, et puis une partie flexible qui est un polymère. Et ces systèmes formaient des nanostructures de type champignon, qui suscitaient à la fois, à l'époque, un émerveillement, mais aussi une certaine controverse à cause du caractère non symétrique de cet assemblage. Mais c'est auprès de lui que, finalement, je suis allé en postdoc et que j'ai découvert, quelque part, l'art de l'auto-assemblage, qui est vraiment un art, où on peut, finalement, on peut voir cette approche comme tout simplement, mettre de l'information ou coder de l'information par la chimie dans le design d'une molécule ou d'un polymère, qui va se traduire par une organisation spontanée de ces polymères entre eux, et ceci sans énergie. Donc c'est une approche qui est effectivement très élégante. Et donc j'ai voulu moi aussi contribuer pendant mon postdoc à ces compréhensions, en réalisant des copolymères qui combinent un segment rigide, ici le rod qu'on peut voir, et puis des segments flexibles qu'on peut voir ici, qui peuvent être des chaînes polymères ou des chaînes flexibles. Et ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu mettre en évidence des structures assez complexes à l'époque, avec plusieurs ordres de grandeur d'organisation. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai énormément appris, puisqu'au sein du groupe de SAM, dont les thématiques abordées allaient de l'auto-assemblage pur et dur, à l'étude des propriétés d'optique non linéaire, jusqu'à la biologie et la médecine. Et en fait, cette expérience m'a énormément décomplexé, quelque part, et marqué, je crois, pour tout le reste de ma carrière. Alors, après le postdoc, il faut trouver un point de chute. Et quelque part, si on veut revenir en France dans une carrière académique, il faut surtout trouver une thématique de recherche originale à défendre dans un concours pour avoir un poste. Donc ma réflexion, elle est venue de cet article de Dave Tyrell. Et vous allez voir le lien quelque part avec les polypeptides, il va venir. Ça peut vous paraître un peu loin pour l'instant. Et ce qu'a montré Dave Tyrell ici, c'est qu'il a utilisé des polymères de type rod-like, lui aussi, qu'il a qualifié rod-like, qui sont en fait des polypeptides. Et ces polypeptides, c'est ce qu'on appelle le polybenzylglutamate, donc le PBLG. Je reviendrai sur ce polymère. Et ce qu'il a montré, en fait, c'est que ces polymères, ces protéines, finalement, étaient capables de s'organiser dans des phases cristalliquides qui ressemblent assez proches aux phases que j'avais étudiées pendant ma thèse. Et puis, quelque part en France, déjà, à l'époque, Douy et Gallo, à Orléans, avaient synthétisé, même avant cette époque-là, c'était plus de 20 ans avant, des copolymères qui intégraient et qui incorporaient ce fameux PBLG. Et donc, depuis les États-Unis, nous avons anticipé notre tour. Je dis nous parce que c'était avec mon collègue et ami à Mountain Clock, lui au Max Planck à Mayence, et puis moi au LCPO à Bordeaux. Et donc, notre idée était de passer de structures rod coil qu'on avait étudiées en postdoc, avec des structures classiques moléculaires, à des systèmes obtenus avec des polypeptides, parce qu'on pouvait faire la même chose finalement avec ces polymères. Et donc on a travaillé ensemble pendant plusieurs années sur l'établissement de diagrammes de phase, et on a découvert un certain nombre de structures avec plusieurs échelles d'organisation assez incroyables. On a d'ailleurs proposé notre vision du domaine dans cet article de revue ici qui fait toujours référence dans le domaine. Je ne résiste pas à vous montrer cette photo, mais j'insiste sur le fait que notre densité capillaire a évolué de la même façon pour lui comme pour moi. Plus sérieusement, je me suis donc concentré pendant pas mal d'années, finalement, à étudier et à développer des structures macromoléculaires, c'est-à-dire en designant des structures, en codant de l'information dans la chaîne pour prédire l'auto-assemblage et former des morphologies qui peuvent être assez complexes. On peut voir cette approche, en effet, comme celui d'un architecte à l'échelle macromoléculaire, enfin moléculaire, macromoléculaire ou supramoléculaire. Et on peut voir ici l'analogie entre cette structure double hexagonale que nous avions formée à partir de nos polypeptides, avec le célèbre escalier du château de Chambord, avec cette magnifique double révolution. Là, il faut que j'avoue, ce n'est pas moi qui ai fait cette analogie, en fait, c'est Ludwig Leibler, qui est spécialiste de physique et chimie des polymères, que l'on connaît tous, et qui a réalisé, entre autres, le premier diagramme de phase des copolymères à bloc, diagramme de phase théorique, et qui est lauréat de nombreux prix, dont la médaille d'innovation du CNRS. D'ailleurs, d'autres chercheurs, finalement, ont travaillé pendant ces années à trouver des analogies en fait, avec des œuvres architecturales. Et j'aime citer ce travail assez spectaculaire d'un illustre chercheur dans le domaine des auto-assemblages à base de polymères, qui est Virgil Perchek aux États-Unis, qui a commencé lui aussi en travaillant sur les cristaux liquides et les polymères cristaux liquides. Et ce qu'il a montré, c'est qu'il a élaboré des pores ici, qui peuvent, donc, par auto-assemblage de ces molécules dendritiques, ces pores, donc il y a un trou ici, peuvent s'insérer dans les membranes biologiques et les membranes cellulaires. Il a montré ou vu une analogie avec la rosace de la façade ouest de la cathédrale de Chartres. Et c'est quelque chose qui nous lie parce que c'est ma ville de naissance, donc on en parle souvent. D'ailleurs, Virgile, lui aussi, a fait cette transition entre l'étude de l'auto-assemblage pur et dur, avec des structures dendritiques de ce type-là, à la nanomédecine récemment. Donc j'aurais pu rester très longtemps quelque part dans cette dynamique et étudier ce type de polymère parce que quelque part il y a des choses fascinantes à découvrir. Alors vous me direz pourquoi et comment opérer cette transition à un moment donné entre l'étude des propriétés structurales où on va plutôt étudier les caractéristiques des polymères à l'état solide, étudier leurs propriétés physiques, optiques, mécaniques, à la nanomédecine. Et où on va plutôt finalement étudier la matière et formuler la matière en solution et en interaction avec le monde du vivant. De premier abord, ça peut paraître assez étonnant, voire même incohérent. Mais en fait, pas du tout. Et tout d'abord, avant cela, il faut rappeler ce qu'est la nanomédecine. Qu'est-ce qu'on entend par là et comment ce domaine s'est construit. Et là, on a de la chance, car nous avons en France et dans la salle un pionnier du domaine qui est Patrick Couvreur. Il a été en effet le premier à démontrer ici en 1977 dans cet article, alors article signé en Belgique et en Suisse, hein, pas en France tout de suite, mais il a été le premier à démontrer l'intérêt d'utiliser des nanoparticules pour transporter des médicaments qui étaient très difficiles et qui pénétraient naturellement très mal dans les cellules. Il a ensuite démontré peu de temps après, en 1979, les premières nanoparticules à base d'un polymère qui est le polyalkyl cyanoacrylate, et a poursuivi cette aventure en clinique par la création de Bulalance Pharma en 1997. Et puis, on le sait, il a consacré toute sa carrière au développement d'autres nanotechnologies et le start-up et le grand succès qu'on lui connaît, dans le domaine de la nanomédecine, et qui a été récompensé par de nombreux prix, et en l'occurrence, entre autres, par la médaille de l'innovation du CNRS, lui aussi. Il a d'ailleurs été titulaire de cette même chaire d'innovation technologique en 2009. Une autre personne clé, et qui a marqué le domaine de la nanomédecine, et qui le marque toujours, en particulier en utilisant les polypeptides, et quelque part, c'est quelqu'un qui m'a fortement inspiré, c'est Kazunori Kataoka. À Tokyo, au Japon. Il a ainsi publié en 1984, comme vous voyez ici, le premier article qui utilise des nanoparticules à base de PBLG, hein, ce polymère qui fait des cristaux liquides, mais qui a aussi d'autres propriétés et qu'on va découvrir. Il a ensuite, en 1987, eh bien, publié les premières nanoparticules de type PEC polypeptide, que l'on voit ici, qui encapsulent un agent anticancéreux et qui forment des nanoparticules d'à peu près 100 nanomètres, qu'il a appelé le NK105 dans le cas de développement industriel, qui ont conduit à diverses évaluations cliniques de phase 2 et 3, donc ce qui représente une évaluation clinique chez l'homme de grande ampleur, et aujourd'hui avec 5 autres développements en cours, faisant de lui un acteur majeur dans le domaine et sur la scène internationale. Et en fait, à mes débuts ou au début de ma transition dans ce domaine-là, j'ai eu une opportunité quelque part un peu inouïe ou un peu unique de rencontrer ces deux illustres chercheurs en même temps et pour la première fois à l'occasion des conférences France-Japon sur la nanomédecine et quelque part de challenger un peu mes idées qui à l'époque étaient certainement un peu naïves et à les challenger auprès des meilleurs. Et on peut reconnaître ici sur ces photos quelques collègues qui compte aussi beaucoup dans ce domaine, français, Christian, Elias, Philippe et d'autres, et qui sont présents ce soir, qui me font l'honneur d'être présents. Alors finalement, comment on passe des cristaux liquides à la nanomédecine? Eh bien là, finalement, à nouveau, c'est assez simple. Et l'analogie, eh bien, si je reprends ce bouquin de Pierre-Gilles Degenne, que vous voyez que j'aime beaucoup, en fait j'en ai un à mon bureau et un chez moi, eh bien ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde l'organisation de certains tensioactifs ici qui vont former donc des savons, hein, des molécules de savon qui peuvent former des bicouches, eh bien, ce que l'on peut voir, c'est qu'elles sont assez identiques eh bien, à l'organisation des molécules qui forment ces couches aussi dans les cristaux liquides, et donc qui forment ce qu'on appelle des couches smétiques dans les cristaux liquides. Et ça, c'est des structures que j'avais étudiées en thèse. Et par ailleurs, on en discutera un petit peu après, eh bien, ces bicouches ici, formées souvent à partir des lipides, eh bien, sont très connues aujourd'hui, forment ce qu'on appelle les liposomes, qu'on connaît très bien puisqu'on s'en sert pour encapsuler beaucoup d'actifs ou d'arômes dans les domaines de la cosmétique, de la détergence ou bien de la médecine. Donc si on regarde ces bicouches ou ces liposomes, donc ils sont nés bien avant en fait, ils sont nés dans les années 65. Et le premier en fait qui a découvert ces structures, c'est Alec Bangham, un chercheur anglais. Et lui, sa motivation, eh bien, c'était de reproduire une membrane cellulaire modèle, simplifiée bien évidemment, pour comprendre la diffusion des ions à travers les membranes. Depuis, eh bien, ces travaux ont intéressé, excité énormément la communauté scientifique, jusqu'à, en 1995, eh bien, atteindre ici la première nanomédecine à base de liposomes qui a été utilisée dans le traitement du cancer, donc 30 ans après. Et en fait, 1995, c'est une année qui est aussi importante dans le monde des polymères, puisque en 1995, eh bien, c'est le moment où les premières structures équivalentes aux liposomes ont été découvertes avec des polymères. Et on les appelle aujourd'hui des polymérosomes. Alors, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, et les premiers qui ont découvert ça, eh bien, sont les groupes d'Adi Eisenberg au Canada et de Bert Meyer en Hollande. Et la vraie compréhension et le nom polymérosome est apparu 4 ans après, donc en 1999. Et c'est là où ce domaine et cette thématique est vraiment née et s'est vraiment développée. Et en fait, au laboratoire, on s'est très vite positionné dans ce domaine en publiant les premiers travaux sur des polymérosomes à base de polypeptides, donc dès 2002, et ceci de façon concomitante avec un groupe du Max Planck ici qui a publié les travaux la même année. Et donc dès lors, et depuis ce temps-là, et depuis maintenant bien plus de 20 ans, eh bien, on a continué à travailler sur ces structures en les faisant évoluer du plus simple au plus complexe, Et en améliorant à chaque fois notre système. Alors, pourquoi, quelque part, on considère ces vésicules à base de polymères, hein, ou ces polymérosomes, si intéressantes? Eh bien, il faut comprendre notre source d'inspiration qui est là, à nouveau, et qui est très simple, et qui est la membrane cellulaire. Donc, ce qu'on cherche, c'est à mieux mimer aussi, comme Alec Bangham l'a fait, eh bien, la structure d'une membrane cellulaire. Soit pour mieux interagir avec elle, soit pour mieux mimer le vivant, pour être moins reconnu par le système immunitaire, et donc être rejeté quelque part. Et donc si on regarde la composition d'une membrane cellulaire ici, eh bien, vous pouvez voir qu'elle est composée effectivement à 60% de lipides. Et donc on comprend l'intérêt de former des liposomes. Mais aussi ce qu'on voit, c'est qu'elle est formée à 40% d'autres choses qui sont des polymères. Alors des polymères particuliers, hein, qui sont des polymères à base de sucre, qu'on appelle les carbohydrates ou les glycanes, et puis beaucoup d'autres dérivés de protéines que l'on voit ici. Protéines, glycoprotéines, lipoprotéines et autres. Et donc, même si les lipides sont importants, eh bien, ce sont finalement ces polymères qui vont donner à la cellule la plupart de sa fonctionnalité. Fonctionnalité étant, par exemple, la capacité à laisser passer certains éléments au travers, ou bien la capacité à venir reconnaître, interagir avec son milieu environnant. Donc j'espère que vous comprenez à présent, effectivement, eh bien, pourquoi reproduire des bicouches ou des vésicules avec des polymères, et en particulier des polypeptides, eh bien, prend tout son sens. Et donc c'est quelque chose qui nous a guidés et qui nous a motivés, effectivement, pendant toutes ces années. Alors, je dis polypeptides, protéines. Et effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on peut regarder d'un peu plus près, effectivement, l'intérêt de ces polypeptides, que l'on peut voir, effectivement, comme des versions simplifiées des protéines que la nature est capable de produire et qui ont des propriétés uniques. Donc, ces protéines, qui correspondent à une séquence bien définie ici d'aminoacides, hein, que le vivant crée par transcription de l'ARN, eh bien, à partir de leur code initial, ici, un code couleur formé à partir des 20 aminoacides naturels, eh bien, c'est ça qui va conditionner la structure, donc cette structure dite primaire, qui va conditionner la structure secondaire, qui va être la forme que va prendre la chaîne polymère. Et ça, on retrouve ici des structures qui sont celles que l'on retrouve en fait dans le fil de soie, qui sont des structures de type hélicoïdal ou des structures en feuillet bêta. Et puis, de cette conformation ici, eh bien, va ensuite conditionner comment une protéine va se replier et éventuellement interagir avec d'autres protéines. Et ça, c'est ce qu'on appelle la structure tertiaire ou structure quaternaire. Et avec mes deux compères ici, Elisabeth et Colin, eh bien, nous développons depuis des années des mimes simplifiées de ces protéines au laboratoire, qui n'intègrent bien évidemment pas toute la complexité des protéines naturelles, qu'on n'est pas capable de mimer et de répliquer, mais qu'on peut synthétiser par contre à grande échelle, et qui vont contenir dans leur structure une partie de la fonctionnalité, que l'on choisit d'intégrer dans la structure de notre polymère. Et donc ces notions seront développées plus tard dans les prochains cours que je mènerai ici au collège. Et donc, quelque part, si on prend tout ça, eh bien, toutes ces idées là, que j'ai essayé de vous exposer par briques, eh bien, ont été cristallisées à un moment donné dans un projet que j'ai déposé à l'UF en 2007, avec les recommandations finalement d'un grand nombre de personnes que vous retrouvez ici et que j'ai déjà citées précédemment, qui ont cru en ce projet et qui ont cru en cette transition, quelque part, et je les remercie profondément pour m'avoir accompagné. Et en reprenant le sujet de l'époque, eh bien, j'ai retrouvé ces figures importantes où on retrouve ici l'analogie que l'on voyait déjà eh bien, entre la structure d'un virus qu'on peut voir ici, donc un virus sphérique, hein, comme le virus de l'herpès, et puis la structure schématique de nos vésicules polymères ou de nos polymersomes. Et on voit que les tailles peuvent être comparables, les épaisseurs ici des membranes peuvent être comparables aussi, et donc quelque part, toutes les propriétés physiques ou physico-chimiques peuvent être comparables. Et donc, cette analogie avec les virus, elle est fondamentale quelque part. Parce que le virus, on le sait, on le connaît très bien, a une terrible efficacité. Et avec cette représentation schématique que l'on peut voir ici, eh bien, un virus va être capable, par sa surface spécifique, et on verra sa composition un petit peu après, à nouveau, on va retrouver ces fameuses protéines associées à des glycanes qui nous intéressent, eh bien, est capable de reconnaître une cellule. Et après ce phénomène de reconnaissance, on va avoir tout un tas de réactions en cascade qui vont avoir lieu, c'est-à-dire internalisation, changement de pH du milieu, ouverture du virus et libération du matériel génétique qui vient infecter la cellule. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on veut effectivement répliquer, mais qu'on veut répliquer à dessein pour venir délivrer de façon spécifique effectivement un médicament dans une cellule de façon parfaitement contrôlée. Et donc, progressivement, au laboratoire, eh bien, nous avons tenté, étape par étape, de répliquer certaines de ces fonctionnalités, en particulier eh bien, en développant des polymersomes, donc des vésicules polymères pouvant répondre à certains stimulus extérieurs. Donc on a pu développer des vésicules qui vont répondre au pH, en venant gonfler ou dégonfler, ou qui viennent ici s'ouvrir ou former des structures reverses. Ça va nous permettre de libérer avec un changement de pH, ce qui était encapsulé. On a pu greffer des peptides ici entre nos deux blocs polymères hydrophiles et hydrophobes qui vont être sélectivement clivés en présence d'enzymes qui sont surexprimées dans un environnement tumoral. On a développé des vésicules qui vont être capables de répondre à un stimulus qui est un champ magnétique. Et là, on a développé les premières vésicules magnétiques avec mon collègue Olivier ici dans les membranes, en incorporant ces particules dans les membranes. Et puis, je voudrais passer un petit peu plus de temps sur cette histoire aussi autour des polymersomes qui vont combiner à la fois un polysaccharide et un polypeptide, capables de cibler de façon intrinsèque, grâce au code moléculaire, eh bien, de façon spontanée, quelque part, des récepteurs biologiques, et ce qu'on appelle ces systèmes auto-ciblants. En fait, dans cette histoire, eh bien, c'est Kamal, qui est un étudiant indien très talentueux, qui a énormément contribué à ces développements. Et il a tout d'abord montré la capacité unique des polymersomes pour encapsuler des actifs thérapeutiques, à la fois hydrophobes, donc non solubles, et hydrophiles, donc hydrosolubles, et voir les deux en même temps. Il a montré aussi les capacités de régression tumorale sur des modèles animaux porteurs de tumeurs du sein, de cancer du sein ici. Et on peut voir une régression tumorale spectaculaire de notre approche technologique et avec une survie importante à l'échelle animale. Et donc ces résultats et cette approche innovante ont conduit au dépôt d'un brevet et puis à une première expérience de transfert technologique avec la société Adocia, basée à Lyon. Et donc cette entreprise, qui était experte dans la délivrance d'insuline et le traitement du diabète, souhaitait diversifier ses activités à l'époque. Et donc nous avons opéré un transfert de technologie avec une montée en échelle et une reproductibilité qui a été effectivement effectuée. Et puis, après pas mal d'efforts, eh bien, finalement, les priorités de l'entreprise ont conduit à un recentrage des activités vers le diabète et, quelque part, notre technologie un peu mise de côté. Donc, avec un peu de recul, il faut dire aussi qu'à cette époque-là, hein, notre approche était peut-être un petit peu en avance de phase avec les convictions du moment. D'une part, parce que les polymersomes, à l'époque, étaient encore à leur prémisse. Et puis aussi, quelque part, ce concept de ciblage spontané ou de ce auto-ciblage, on va dire, était un peu controversé, il faut l'admettre. Controversé parce que les données de la littérature à l'époque montraient qu'il fallait de très longues chaînes polymères, ici, à la surface des nanoparticules, pour pouvoir interagir avec le récepteur biologique exprimé au niveau de la cellule tumorale. Et nous, on avait des très petites chaînes. Toutefois, eh bien, dans notre cas, ce qu'il fallait considérer, ce n'était pas juste la chaîne à la surface, mais vraiment l'objet, la nanoparticule dans son intégralité. Mais on n'a pas réussi à convaincre, quelque part, à ce moment-là. Et donc, on a tout de même continué à poursuivre nos efforts, et on a pu démontrer un petit peu plus tard, grâce ici à Sylvia, et puis nos collaborateurs de l'IAB à Grenoble, eh bien, qu'on pouvait cibler de façon spécifique des récepteurs biologiques, dans le cas d'un autre modèle pathologique, qui est le cancer du poumon dans ce cas-là. Et on a pu montrer aussi une approche de type cocktail thérapeutique, donc en encapsulant plusieurs actifs thérapeutiques dans la même vésicule. Et on a pu montrer effectivement les effets sur la diminution de croissance tumorale. On a aussi démontré avec nos collègues de L'Oréal que ces nanoparticules étaient vraiment un objet identique, qui avait des différentes propriétés que les composants individuels en fait, qu'on avait sur ce, qui étaient intégrés dans la structure. Et on a pu montrer la capacité de ces nanoparticules d'agir en tant qu'inhibiteur de la hyaluronidase, qui est l'enzyme qui va dégrader l'acide hyaluronique. Et d'ailleurs en surpassant très largement les standards connus de l'époque en termes d'inhibition. Et donc, en fait, on peut tirer comme en enseignement de tout cela, eh bien, ce qu'on peut tirer, c'est tout d'abord qu'on peut voir l'échec du transfert. Donc on peut voir le côté vide du verre. Mais ça, c'est pas ma vision. On n'était peut-être pas assez mûr, effectivement, à l'époque, on n'avait peut-être pas assez d'éléments pour convaincre davantage. Mais on peut voir aussi le positif avec, d'une part, la solidité de la chimie et de l'auto-assemblage que l'on avait pu développer à l'échelle du laboratoire et qui a été transféré à une échelle industrielle. Et puis on voit finalement que notre acharnement ou notre entêtement, qui vient peut-être de mes gènes bretons, nous a montré que notre concept, finalement, il faisait sens. Et aujourd'hui, nous continuons à développer ces systèmes et à y apporter de la compréhension. Alors toutefois, il faut apprendre de ces... quelque part, il faut tirer les leçons de tous les échecs, entre guillemets. Et donc, fort de cet apprentissage, et en gardant l'idée que nous voulons proposer une technologie qui reste de rupture, mais qui est plus facilement transférable en clinique, eh bien, nous avons développé en parallèle des approches plus simples, en utilisant finalement des polymères qui sont plus connu, mieux admis. Et ce qu'on a développé, et ça c'est le travail de Louis, eh bien, c'est d'incorporer finalement entre des segments polymères, donc une partie hydrophile, une partie hydrophobe, ici avec des polymères à nouveau classiques, eh bien, un groupement qui va être capable de se couper, de se cliver par l'action de la lumière. Et ça, ça nous permet de déstabiliser nos vésicules polymères et de venir à nouveau libérer de façon contrôlée. Aussi, avec Ariane, eh bien, nous avons pu développer des polymersomes, donc des vésicules polymères, toujours sensibles à la lumière, mais avec un mécanisme un petit peu particulier ici, sur lequel je reviendrai un petit peu après. Et puis, Zoïcha a développé des polymersomes sensibles à l'action des rayons X. Et finalement, c'est cette technologie que nous avons brevetée, et puis c'est celle-là qui, une nouvelle fois, eh bien, a été licenciée très récemment, cette fois-ci, à l'entreprise Doxanano. Donc l'idée conceptuelle ici, elle est finalement assez proche de l'idée qu'on avait ici, sauf que on utilise une action et une irradiation ici rayons X, de telle sorte à ce que le polymère et la nanoparticule soient déstabilisés sous ce rayonnement particulier et quelque part libèrent le médicament encapsulé. Ici, le gros intérêt, c'est que l'utilisation des rayons X est très classique dans de nombreux protocoles de traitement, en particulier du cancer, et que l'on peut facilement intégrer dans une technologie, dans des approches thérapeutiques existantes. Donc alors, comment s'est passé ce nouveau transfert technologique et cette nouvelle expérience d'innovation que nous avons pu mener? Donc tout d'abord, il faut des recherches et des travaux fondamentaux de qualité innovants qui donnent lieu à un brevet, donc à un brevet solide. Ici, ces travaux ont été issus d'un travail collaboratif très fort développé principalement entre Bordeaux et Paris dans le cadre d'un projet ANR. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que beaucoup de brevets, on sait, restent dans les archives ou sont abandonnés après quelques temps, car ils deviennent trop coûteux à maintenir. Ensuite, il faut une âme d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, quelqu'un qui croit et qui a la volonté de pousser la technologie vers la clinique. Et dans le domaine de la pharma, c'est pas le domaine le plus simple. Et là, ça a été Isabelle Marie-Saint-Père qui est venue quelque part nous chercher, qui est venue vers nous avec la volonté de créer Doxanano. Et puis, pour que tout marche, il faut une équipe solide. Et pas uniquement ça, c'est une équipe aussi qui partage les mêmes valeurs et la même ambition. Et là, donc, l'équipe s'est créée avec Leslie en plus, ancienne postdoc de l'équipe et qui avait cette fibre entrepreneuriale. Et si finalement, c'est avec ces trois personnes que l'aventure Doxanano a débuté, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et en fait, ce n'est que le début de l'aventure. Car la clé, en fait, et les travaux pour aller de cette innovation technologique, effectivement, jusqu'au patient, sont encore conséquents. Mais en fait, la clé, c'est aussi de bien positionner la technologie par rapport à un besoin clinique. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais aussi une réalité économique, bien évidemment. Et donc, le positionnement de Doxanano, ici, c'est de venir libérer sélectivement un agent de chimiothérapie, sélectivement dans le temps, dans l'espace et en dose, sous l'action, effectivement, des rayons X. Et le tout pouvant s'inscrire dans des protocoles de radiochimiothérapie existants. Et donc, comme je l'ai déjà dit, c'est que le début de l'aventure, mais notre ambition est grande. Alors maintenant, revenons un petit peu au laboratoire. Et au laboratoire, et quelque part, où est maintenant notre ambition actuelle ou future, un petit peu future. Je vais vous parler aussi un petit peu de ce qu'on imagine dans le futur. C'est tout d'abord d'aller plus loin dans le biomimétisme et de passer du mime, quelque part, de la structure externe d'une membrane cellulaire à finalement essayer de mimer la cellule dans sa globalité. Alors, La cellule, on peut la voir avec différentes perspectives. Celle du biologiste, mais aussi celle du chimiste. Et la perspective du chimiste que je suis, on peut voir tout simplement la cellule comme une sorte de mini-usine. Alors, c'est une vision très simpliste, je m'excuse auprès des biologistes. Mais une mini-usine qui va, quelque part, produire l'ensemble des composés dont elle a besoin. Et puis, elle va le faire, effectivement, avec une efficacité qui est redoutable. Et ça, c'est assez extraordinaire, en fait, en tant que chimiste. Et une clé pour faire tout ça, c'est de séparer ce qui va se passer dans la cellule dans différents sous-compartiments, qu'on appelle aussi les organelles, et qu'on peut voir ici. Et donc, dans chaque espace de la cellule, se passent des choses différentes et des chimies peuvent avoir lieu de façon différente et concomitante grâce à cet effet de compartimentation. L'enjeu pour nous, eh bien, ça a été tout d'abord de tenter de reproduire cette compartimentation. Et puis, quelque part, d'auto-assembler, finalement, différentes composantes, puisqu'on a bien vu, une cellule, une membrane cellulaire est composée de plein d'éléments chimiques différents qui apportent des propriétés différentes. Et donc, beaucoup d'équipes ont commencé à travailler là-dessus depuis pas mal de temps, et nous ne sommes pas les seuls. Hein. Mais un des enjeux actuels est finalement d'aller un peu au-delà de ça. Et pas juste de reconstruire, finalement, la structure, mais de voir ces choses-là de façon beaucoup plus dynamique. Parce que le vivant est dynamique, les choses bougent. Une cellule ne reste pas figée dans un état qu'on peut voir ici. Elle va être capable de se reconfigurer, elle va être capable d'évoluer en fonction de ses besoins. Et donc, on a commencé au laboratoire eh bien, à reproduire cette structure compartimentée il y a plus de 10 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux technologiques en fait, à résoudre au passage. Donc, on a montré qu'on pouvait mettre des vésicules dans des vésicules, des liposomes dans des polymersomes, ou des polymersomes dans des polymersomes, un petit peu comme des poupées russes. On a aussi reproduit la diversité de composition d'une membrane en mélangeant et en associant polymères et lipides. On a intégré de la réactivité en étant ici capable de faire des réactions enzymatiques en cascade, en ayant trois enzymes qui réagissent l'une après l'autre dans ces différents sous-compartiments. Et puis, petit à petit, on a ajouté ces notions de dynamique et de reconfigurabilité que je mentionnais précédemment pour élaborer nos systèmes, nos structures artificielles. Et là, on a des systèmes effectivement qui vont être capables de bouger, qui vont être capables de se concentrer ou de se diluer en fait en fonction de réponses à différentes sollicitations extérieures. Et donc, parmi tout ça et parmi toutes les réponses biologiques en fait auxquelles on peut penser, variation de température, variation de pH ou autre. Eh bien, j'aimerais me focaliser un petit peu ici sur les effets de pression osmotique. Et ce sont des effets en fait, qui sont fondamentaux en biologie, mais qui finalement sont assez sous-exploités dans le domaine et dans le développement de nano ou de micro-particules stimulables. En fait, les premiers éléments de compréhension de l'effet de pression osmotique hein, ont été amenés en 1748, quand l'abbé Nollet remarque que lorsque l'on sépare de l'eau et de l'alcool par une vessie, eh bien, ce qu'il a vu, c'est que l'alcool diffuse vers l'eau, mais en fait pas l'inverse. Donc en fait, la membrane de la vessie a une sélectivité en ce qui passe à travers sa membrane. Et tout cela, en fait, cette compréhension plus détaillée, en fait, c'est en 1886 que Van't Hoff eh bien, propose une analogie entre les solutions aqueuses et les gaz parfaits et applique la thermodynamique à l'osmose. Il établit une loi qui est ici, extrêmement simple. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans cette loi, eh bien, similaire à celle des gaz parfaits, et il propose aussi l'adjectif pardon, de semi-perméable pour définir ces membranes. Et ce que l'on peut voir ici, eh bien, c'est si on part ici d'un milieu très concentré à un milieu plus dilué, séparé par une membrane, eh bien, spontanément, si une soluté ne peut pas diffuser à travers la membrane, ce qui va se passer, c'est que l'eau va diffuser. Et donc l'eau va diffuser ici et va quelque part aller compenser la différence de concentration des espèces qu'on a de part et d'autre. Et ça va créer donc une pression osmotique. Et cette pression osmotique eh bien, se traduit aussi par une pression mécanique sur la membrane qui va être exercée. Et si cette différence de pression osmotique est très grande, eh bien, cela peut entraîner la rupture de la membrane, et c'est le cas de l'hémolyse en fait, dans les cellules ou dans les globules rouges qu'on peut voir ici. Donc en fait, la plupart des cellules savent répondre à cette différence de pression osmotique. Et elles y répondent d'une façon qui est effectivement très élégante. Et si on voit ici schématiquement, après une pression osmotique dite hypertonique, la cellule, quelque part, évacue l'eau, donc se concentre, et en se concentrant, en fait, elle va créer ces organelles dans la cellule, ces fameux compartiments, créer une protéine d'intérêt qui va se localiser à la membrane, créer un pore, une porosité, et relaxer cette pression osmotique. Donc ça, c'est un mécanisme effectivement biologique spontané que la cellule est capable de faire. Et donc, nous, ce dont à quoi on s'est attelé, c'est d'essayer de reproduire ce mécanisme et de répliquer ce mécanisme et de façon complètement artificielle. Donc pour le faire, eh bien, on a développé des vésicules Et puis ces vésicules, on a intégré ici un modèle d'enzyme qui va être capable de transformer en fait une molécule en une molécule fluorescente. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a ici, après un choc osmotique, une augmentation de la fluorescence. Et donc ce que l'on voit, c'est que, et ce qu'on regarde, ce qu'on peut voir sur ces graphes, c'est que finalement, tant qu'on n'induit pas de changement de pression osmotique, il ne se passe rien, rien ne réagit. Et puis, lorsqu'on va induire ce changement de pression osmotique, eh bien, on va avoir une production de la molécule fluorescente ici, qui va avoir lieu, mais en réponse à cette dérégulation. Alors, cet exemple montre que finalement, eh bien, on peut concevoir une cellule très simplifiée, artificielle, hein, qui va être capable de déclencher une réaction biochimique en réponse à un potentiel dérèglement physiologique, de la même façon qu'une cellule serait capable de le faire. Et ça ouvre effectivement d'énormes possibilités. Donc une autre façon d'aborder les choses, eh bien, c'est un peu comme l'a fait Van't Hoff. En fait, c'est d'avoir une membrane et puis d'augmenter la pression osmotique à l'intérieur. Et puis si on fait ça, eh bien, l'eau va diffuser à l'intérieur, on comprend bien. Et la conséquence, c'est que la vésicule va gonfler. Par contre, si on utilise une membrane eh bien, qui n'est pas capable de laisser passer l'eau, eh bien, cette augmentation de pression osmotique va créer une pression sur la membrane et quelque part va être capable de venir pousser la membrane et venir exploser les vésicules. Donc ça, c'est ce qu'on a démontré, ici, à l'aide d'Ariane et Louis en particulier, avec différentes molécules, et on a créé comme ça, sous action lumineuse, on a cassé des molécules pour augmenter la concentration à l'intérieur. Et puis ce que vous allez voir, c'est que lorsqu'on va allumer maintenant sur ces vésicules avec la bonne longueur d'onde, eh bien on va venir exploser ces objets de façon très sélective, dans le temps, dans l'espace, et avec le rayonnement, avec la source laser qui est la bonne longueur d'onde. Vous voyez bien ici, sur cette vidéo qui s'arrête, que c'est un phénomène d'explosion qui a bien lieu. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais ça sert à quoi ? Eh bien, ça, c'est des choses qu'on est en train maintenant d'étudier pour venir injecter ces polymersomes dans le cerveau et venir activer une libération de différentes molécules dans le cerveau pour aller étudier effectivement ces phénomènes biologiques particuliers. Et ça ouvre des opportunités assez incroyables en fait dans ce qu'on peut qualifier de l'opto-neurotechnologie. Donc alors, dans tout ça, les prochains enjeux pardon, pour nous, eh bien, c'est tout d'abord d'un point de vue fondamental de chercher et de reproduire une communication entre les cellules, mais avec nos fausses cellules, nos cellules artificielles et puis des vraies cellules, et donc de les faire communiquer dans les deux sens. Donc, je vous ai montré déjà effectivement qu'on peut voir une réponse avec des changements et des variations de pression osmotique. Ensuite, ce que l'on veut vraiment pousser dans les prochaines années, eh bien, c'est d'intégrer de plus en plus loin nos vésicules polymères ou nos polymersomes dans les neurosciences, et en particulier dans ce domaine d'opto-neurotechnologie. Et c'est ce qu'on a commencé à faire en fait, avec des collègues du Neurocampus à Bordeaux. Ici, on peut voir qu'en injectant ces vésicules dans le cerveau, eh bien, on voit d'une part qu'on n'a pas de toxicité, ils résistent très bien, et on peut venir les activer avec une activation biphotonique depuis l'extérieur. Donc ça ouvre effectivement des champs assez excitants pour l'avenir. Donc vous allez me dire pourquoi faire ça et pourquoi faire de la chimie dans le cerveau. En fait, on fait déjà beaucoup de choses dans le cerveau. On fait beaucoup de choses, mais avec des stimulations électriques, qui sont effectivement très connues et qui apportent d'énormes progrès en médecine. Mais toutefois, ces différences en fait, de signaux électriques sont très souvent induites aussi par des différences de signaux chimiques, une signalisation chimique. Et donc, d'associer une signalisation électrique avec une signalisation chimique, eh bien, ça ouvre de nouvelles opportunités et potentiellement de nouveaux traitements. Donc, notre ultime rêve ou enjeu, hein, c'est vraiment un rêve plutôt, eh bien, quelque part, c'est d'aller encore plus loin. Et quelque part, c'est de concevoir une cellule synthétique simplifiée qui va pouvoir agir comme un réacteur autonome, qui va comprendre, senser une dérégulation et venir la corriger de façon in situ. Alors on peut le voir effectivement, c'est un rêve aujourd'hui. Et quelque part, relever un tel défi, même s'il est atteignable, j'en suis convaincu, c'est complexe parce que ça nécessite effectivement un vrai investissement fort et continu en rassemblant des compétences multiples qui vont bien de la synthèse organique macromoléculaire, la biologie de synthèse, du procédé, en particulier microfluidique, de la physique et physico-chimie colloïdale, de la pharmacologie, de la biologie, et bien sûr de la médecine. Mais l'idée, elle peut vous paraître folle, voire stupide, mais elle n'est pas si folle. Et quelque part, j'ai été heureux de visiter récemment un centre au Japon qui propose un projet comparable. Donc, quelque part, ça me rassure aussi. Et c'est dans le groupe du professeur Kataoka, dans un institut en fait, qui a été créé pour lui. Et vous voyez, ce projet, il l'appelle le In-Body Hospital. C'est finalement de créer un hôpital dans le corps qui a, et dont les objectifs sont un peu les mêmes ou un peu comparables de ceux que je vous ai exposés. Vous voyez l'échelle de temps, l'objectif, c'est de l'atteindre en 2045. Donc effectivement, il faut du temps et c'est une projection assez longue. J'ai envie de dire, malheureusement, en France, c'est souvent difficile d'envisager une telle dynamique avec des projets aussi longs, même s'il y a beaucoup de talent en France. Et là, je tends la perche finalement à toutes les personnes qui seraient motivées pour nous aider et nous soutenir dans cette démarche. Donc pour conclure, et j'arrive à la fin, je pourrais conclure à partir de cette phrase de Pasteur que j'aime beaucoup. Mais je voudrais donner en fait quelques éléments de conclusion. Donc, c'est une sorte de conclusion en fait. Peut-être d'abord bien que les polymères ne représentent pas qu'une matière simple, peu coûteuse, que l'on peut jeter. Et c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui. C'est une matière bien plus noble, bien plus riche et complexe, et interdisciplinaire par essence. La science des polymères, vous l'avez vu, est encore jeune et cache encore bien des ressources et continuera très certainement à impacter notre futur dans l'avenir, j'en suis convaincu. Ensuite, le biomimétisme dans notre approche. Donc, je l'ai mentionné beaucoup dans mon titre, mais je n'ai pas finalement insisté lourdement sur cet aspect de ma présentation, même si j'espère que vous avez ressenti que cette inspiration du vivant finalement traverse toutes nos réflexions de façon continue. Et pour nous, c'est une source d'innovation et de performance. Et je reprendrai ces notions de façon plus détaillée dans mes cours. Un autre message qui me semble important, et peut-être plus général, et je m'adresse en particulier aux jeunes ici, eh bien, c'est qu'il est important de toujours rester ouvert à l'inattendu, et parfois avec une certaine naïveté. Rester naïf, rester curieux, honnête, critique. C'est le propre du chercheur, vous allez me dire. Il faut bien sûr avoir des convictions, mais jamais s'y enfermer. Et je le vois parfois, malheureusement. Et savoir souvent faire le petit pas de côté, comme Degen savait bien le faire, ce petit pas de côté qui nous permet de voir les choses avec un autre angle et avec une autre perspective. Et puis, en m'adressant à nos évaluateurs, nos dirigeants, je trouve qu'on met trop les gens dans des cases. Et j'ai souvent entendu dire « Ah oui, mais toi, t'es chimiste », ou au contraire « Ah ben non, t'es pas chimiste, t'es physico-chimiste ». Pour moi, ça veut rien dire. Et surtout si on met en avant, et quand on met en avant l'interdisciplinarité, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc certains restent parfois trop souvent enfermés dans leurs convictions, ou dans cette case, en fait, et c'est pour moi un réel frein à l'innovation. Et finalement, eh bien, j'encourage tous les chercheurs à prendre des risques. Nous faisons le plus beau métier du monde. Nous avons une liberté intellectuelle totale, et la liberté de choisir nos thématiques de recherche. Alors bien sûr, prendre des risques ou changer de thématique, c'est trouver des financements, et c'est pas toujours facile, on sait aujourd'hui, on s'en plaint beaucoup, peut-être parfois un peu trop. Mais cette liberté, elle est précieuse. Il faut savoir faire des choix. Donc changer de sujet, c'est pas simple, mais choisir et assumer ses choix sont importants et sont quelque part, je pense, un gage de réussite. Et donc pour finir, je voudrais arriver à la phase finalement importante qui est la phase de remerciement. Et je voudrais remercier un certain nombre de personnes. Tout d'abord, je tiens à remercier l'École de la République qui m'a permis d'apprendre et de me construire et de me développer. Ensuite, je voudrais remercier toutes ces personnes et toutes les personnes qui ont contribué à ces travaux, toutes les personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé, tous les mentors que j'ai déjà mentionnés. Je remercie bien évidemment mes tutelles de mon laboratoire qui me suivent depuis plus de 25 ans maintenant à Bordeaux, puisque je suis arrivé à Bordeaux et je suis resté à Bordeaux. Tout d'abord, Bordeaux INP, et l'ENSMAC, où j'enseigne, et tous mes collègues, mais aussi l'Université de Bordeaux, et bien sûr le CNRS, qui m'ont toujours soutenu dans nos travaux. Merci aussi à tous nos financeurs publics et privés, qui nous ont fait confiance depuis toutes ces années, et en particulier L'Oréal, avec qui nous avons pu consolider notre relation. Bien sûr, je tiens à remercier toute l'équipe du LCPO, avec qui je partage une grande partie de mes journées, si ce n'est la majeure partie de mes journées depuis 20 ans. Rien de ce que je vous ai présenté aujourd'hui n'aurait pu se faire sans l'entourage de collègues brillants et d'étudiants talentueux. Depuis plus de 25 ans, presque 40 étudiants en thèse et autant de chercheurs postdoctoraux ont participé et apporté leur contribution à nos travaux. J'ai pu en citer que certains, mais ma gratitude est pour toutes et tous. Vous avez chacun et chacune apporté une pierre à l'édifice. Et sans vous, on n'en serait pas là aujourd'hui, parce que nous sommes avant tout des expérimentateurs. Et on peut avoir des super idées, mais sans vous pour les concrétiser, je ne serais pas grand-chose. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des collègues chercheurs, enseignants-chercheurs et tout le personnel du LCPO, administratif et technique. Le cœur vibrant de la recherche, en fait, c'est l'unité de recherche, c'est le labo. Et quelque part, il est pour nous fondamental de pouvoir s'appuyer sur des compétences techniques et scientifiques de très haut niveau, et aussi d'avoir une aide administrative performante dans un monde où, quelque part, malgré ce qu'on dit, parfois la complexité ne fait qu'augmenter. Donc merci à toutes et tous. Je remercie aussi l'équipe d'Oxanano, avec qui je partage cette folle aventure de l'innovation. L'énergie que vous insufflez, que vous m'insufflez, eh bien, me donne beaucoup d'espoir, et j'espère que nous pourrons apporter rapidement des solutions concrètes à des patients. Et puis finalement, eh bien, je remercie évidemment tous mes proches, ma famille et mes amis. Merci Karine, Charline, Maxence pour me soutenir tous les jours et me permettre de rester ancré et de garder les pieds sur terre. J'espère que vous comprendrez un peu mieux la passion qui m'habite et parfois, je l'avoue, qui m'envahit un peu trop. Je remercie aussi mes parents pour m'avoir fait confiance. Merci papa, merci maman. Et merci à toute ma famille, tous mes proches pour leur bienveillance si précieuse. Et finalement, merci à toutes et tous pour votre attention. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.